Qu'y a-t-il ?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif ?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il ?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non.
Bonjour, nous n'avons pas vu Mektoub My Love, le dernier Kechiche, on n'a pas vu non plus La Prière, le dernier Cédric Kahn, et pas plus Pacific Rim Uprising, le blockbuster de la semaine, mais on a vu d'autres blockbusters, enfin toi surtout.
Oui, j'ai vu Tomb Raider, le reboot de deux films qui étaient réalisés au début des années 2000, et puis je vous parlerai de Mon 20e siècle et de Battleship Island, un film coréen.
Alors ça, ce sont deux films confidentiels dont on n'a pas parlé la semaine dernière, et donc on se fait un petit rattrapage. Marine nous parlera d'avant et après, ce sera Après la guerre, film italien d'Annalita Zambrano, et puis Avant que nous disparaissions, ça c'est le film de Kiyoshi Kurosawa, que tu as peut-être vu, Manu.
Oui, j'ai énormément aimé.
Et ben voilà, bah tu le commenteras juste après la chronique de Marine. Quant à moi, eh bien, j'ai vu le film de Sophie Filière. Ça aussi, c'est un rattrapage. Sophie Filière qui faisait La Belle et la Belle avec Sandrine Kiberlin. Ça nous donnera l'occasion de jouer un blind test avec la filmographie de l'actrice que particulièrement, moi, j'apprécie énormément. Et puis, on va débuter cette émission avec Les Bonnes Manières, film de Juliana Rojas et Marco Dutra, deux Brésilien, enfin un couple.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Prix du jury au festival de Locarno et prix du public à l'étrange festival en mélangeant films social et fantastique. Les Bonnes Manières de Juliana Rojas et Marco Dutra est un film qu'on a peu l'habitude de voir chez les Brésiliens. Enfin, à mon sens, à choisir, si on avait donné une patrie à ce film, l'Argentine aurait pu correspondre. En tout cas, un peu mieux. Avec les films brésiliens, on est davantage habitué aux films social ou aux films noirs. Mais si le duo de réalisateurs n'a pas mis de côté la critique sociale d'un immense pays travaillé par les inégalités, il a pris le détour du film fantastique et de la monstruosité. Les réalisateurs brésiliens ont même fait mieux, ils sont parvenus à doser un conte de fées aux accents cruels, mêlé à de l'horreur soft, en nous gratifiant d'une romance, voire au passage d'une comédie musicale. Alors je me garderai bien de dévoiler quelle est la nature précise de cet élément fantastique. Tout ce que je peux vous annoncer, c'est qu'il est avant tout question de maternité et d'éveil amoureux dans la première partie du long métrage, et de naissance et d'étrangeté dans la seconde. Alors ces deux parties étant symétriques mais séparées de cette année.
Dormi no chão, dormi no feno, dormi cavalinho.
Boa noite.
Aproveita que é pequeno.
Nous sommes à Sao Paulo. Clara, une presque infirmière à la peau noire de la grande banlieue, est engagée par Anna, une femme issue de la classe aisée, et blanche évidemment. Hein. Et elle est engagée, donc Clara, comme la nounou de l'enfant à naître d'Anna. Alors au premier d'abord, avec cette nounou noire des quartiers pauvres, et cette femme blanche riche qui s'ennuie ferme et qui ne rêverait que de danser, eh bien les réalisateurs nous confrontent au contraste social du Brésil. Mais l'essentiel est ailleurs, il va se nouer entre ces deux femmes que tout semble opposer, eh bien une relation particulière qui ne sera pas due qu'à cette grossesse. Alors Clara, la nounou, constate très vite que sa patronne fait des crises de somnambulisme, et ces petites crises pourraient passer s'il n'y avait pas des comportements plus troublants à l'occasion de celle-ci. Et si on ajoute la pleine lune qui joue de son magnétisme, eh bien, il y a de quoi se poser des questions. Le mystère s'épaissit à mesure que nous avançons dans cette grossesse, et la mise en scène prendra soin de nous mettre la puce à l'oreille avant de nous mettre en face d'un mythe très en vogue dans certaines contrées du Brésil. De quoi nous faire une idée sur le mal dont pourrait souffrir la jeune mère. Alors cette progression dans le fantastique est amenée délicatement. Là, je vous fais écouter des petites comptines qu'on entend dans le film qui pourraient être carrément issues d'un film de Disney, parce que les réalisateurs s'inspirent de ces contes-là. Alors, après le quartier résidentiel des riches de Sao Paulo, la seconde partie se déroule dans le quartier de la nounou, Clara, qui n'est plus nounou, mais mère d'adoption et qui prend son rôle à cœur. Il y a de quoi, car son enfant souffre d'une différence qui l'exclut. Alors là encore, les réalisateurs vont petit à petit nous donner toutes les clés de la situation. Alors, pour le conte, ils prennent en exemple donc ceux de Disney, mais pour la mise en scène, il faut plutôt lorgner du côté de Jacques Jack Tourneur, comme la féline et la narration parlée hors champ. Ainsi, on fait connaissance avec l'étrangeté d'abord avec le son, ensuite des gros plans et des détails pour enfin aboutir à une vision plus globale qui passe par des effets spéciaux qui, s'ils ne sont pas complètement ratés, manquent un peu de fluidité. Mais on excuse vite le manque de budget de par la construction élégante et patiente qui a précédé. Alors, si Tourneur usait de jeux d'ombre et de contrastes, ici les contrastes interviennent au sens propre. Hein. On a celui de l'humain face à l'instinct, le centre et la périphérie, blanc et noir, riche et pauvre, la normalité et l'anormalité. Autant de distinctions qui sont bien soulignées par une mise en scène qui, sans être voyante, est appuyée, efficace, en instaurant un doux dérèglement jusqu'à une explosion finale. Les bonnes manières qui renvoient à la société civilisée et qui vont être bousculées, eh bien, est un film qui prend son temps, mais jamais ennuyeux. Et au-delà du mélange des genres, fantastique, conte, horreur, romance et chronique sociale, eh bien, sa recette tient aux surprises que le scénario distille et que la mise en scène orchestre élégamment. Ce film donc brésilien d'un duo, alors je ne sais pas s'ils sont couple dans la vie, j'imagine. T'as ton idée ?
Non, aucune.
Bon. Donc Les Bonnes Manières est en salle depuis le 21 mars.
Avez-vous remarqué qu'on tourne de moins en moins de films d'action actuellement ?
Oui.
Cinérama.
Le monde devient philosophique.
Lara, ton père nous a quittés. Je crois savoir où mon père est allé. Ce sera une aventure ?
La mort n'a rien d'une aventure.
Et oui, la mort n'a rien d'une aventure, hein. Mais bon, un reboost de deux nanars pitoyables réalisés respectivement en 2003 et 2005, inspiré donc d'un jeu vidéo culte, était-ce bien raisonnable ? Alors, seul point positif des croûtes commises respectivement à l'époque par Jean Debon et Simon West, la présence d'Angelina Jolie, dont le physique de un peu de bombe sexuelle pour ado prépubère collait plutôt bien à la silhouette iconique du jeu vidéo, fantasme ultime des gamers des années 90. Il me semble que c'est dans les années 90,
oui, Tomb Raider.
Hein. Alors, la nouvelle Lara Croft hein, décevra sans doute les puristes et les érotomanes aussi, hein, dévitalisée de son aura sexy. Mais c'est qu'elle perd en courbe, elle le gagne en crédibilité à l'écran. Avec son physique un peu de garçon manqué, sans perdre néanmoins de son charme plastique, Alicia Vikander s'impose dès les premières minutes comme une aventurière acharnée, une héroïne parfaite pour le film d'action rêvé. Alors le côté asexué du personnage est vite balayé par l'obstination de la jeune fille à découvrir ce qui est arrivé à son père. Lara Croft, hein, fille d'un riche explorateur excentrique ayant disparu quelques années plus tôt, Lara refuse de signer les papiers de sa mort, le désignant comme héritière, préférant survivre en acceptant n'importe quel petit boulot alors qu'une fortune colossale l'attend. Alors nous sommes effectivement au cinéma, au pays des nobles valeurs et sentiments où tout est possible. Alors convaincue que son père est encore en vie, elle met le cap sur la destination où il a été vu pour la dernière fois, la tombe légendaire d'une île mythique au large du Japon. Mais le voyage se révèle des plus périlleux et il lui faudra affronter d'innombrables ennemis et repousser ses propres limites pour devenir la fameuse Tomb Raider.
Qu'est-ce que tu fais ici, Lara ? 7 ans que je suis sur cette île. C'est ton père qui m'a cloué ici.
Qu'est-ce que vous savez au sujet de mon père ?
Alors, ayant redonné un coup de sang au slasher avec le formidable Coldplay et réalisé un bon film catastrophe nordique surpassant les modèles hollywoodiens avec The Wave, le Norvégien Roar Utog s'empare de cette franchise et y insuffle un sens réel du rythme grâce à une mise en scène enlevée, qui privilégie l'action physique aux effets numériques, même s'ils sont bien présents et pas toujours du meilleur goût. Alors la première demi-heure est par ailleurs endiablée et laisse augurer le meilleur qui n'arrivera pas à cause d'un scénario archi-prévisible, voire même assez débile, à l'image d'un retournement de situation finale qui fait quand même l'effet d'un pétard mouillé. Hein. Le spectateur, de toute façon, ayant deviné au bout de 15 minutes le petit twist, on va dire. Hein. À cela s'ajoutent des méchants d'opérettes caricaturaux qui enfoncent le film dans les abîmes du blockbuster le plus infantile. Alors, sans enjeu ni surprise, hein, ce divertissement totalement inutile se laisse quand même gentiment visionner si l'on n'est pas trop difficile et surtout si l'on apprécie Alicia Vikander qui pourrait devenir une sorte d'Indiana Jones au féminin avec de meilleurs scripts et un peu plus d'humour, cela dit, car le film en est absolument dénué. Et pour les plus pervers, hein, Tomb Raider vaut le détour pour la coupe de cheveux de Dominic West qui ressemble étrangement à Jean-Claude Van Damme dans Chasse à l'homme de John Woo. Moi, c'est peut-être le détail qui m'a le plus plu dans le film.
C'est l'aspect comique, alors. C'est ça.
Oui, mais un peu involontaire. J'aime ça quand même, hein, dans ce genre de film, le côté, l'humour vraiment involontaire. Ça donne un charme parfois, et surtout avec les années.
Alors on passe du film occidental qui nous vient d'Hollywood au film japonais, celui de Kiyoshi Kurosawa, Avant que nous disparaissions. Film de science-fiction qui questionne l'humanité et l'amour, et c'est Marine qui nous en parle.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Narumi et Shinji sont mariés et traversent une mauvaise passe, Narumi ayant découvert que son mari l'a trompée. Un jour, celui-ci disparaît puis ressurgit, totalement transformé. Il semble n'avoir plus aucun souvenir. Au même moment, des phénomènes étranges se produisent un peu partout dans la ville et une famille entière est brutalement assassinée, poussant un journaliste à mener l'enquête. Après le thriller et le fantastique, Kyoshi Kurosawa se frotte à la science-fiction, la vraie, genre on ne peut plus casse-gueule, et pour ajouter au défi, il mêle cette histoire déjà invraisemblable à une histoire d'amour. Le film qui en résulte ici ne plaira pas aux sceptiques, aux rabat-joie et aux fans de Transformers, mais cette science-fiction poétique est aussi surprenante que réjouissante. Avant que nous disparissions est à l'origine une pièce de la compagnie de théâtre japonaise Ikkyume, qui parodiait les films de science-fiction des années 50 et la paranoïa ambiante relative aux supposées invasions extraterrestres. Kurosawa transforme cette parodie en réflexion sur l'humanité, sur ce qui régit la société. Le but des extraterrestres dans le film est de venir sur Terre pour préparer une invasion future. Et pour ce faire, des éclaireurs venus en repérage infiltrent le corps des humains afin de leur voler des concepts qu'ils vont ramener à leurs semblables. Alors cela peut être le concept de la colère, de la famille, du travail. Par exemple, si on vous vole le concept de la famille, eh bien vous ne ressentirez plus aucune bienveillance à l'égard des membres de votre famille. Si on vous retire le concept du travail, vous vous mettez subitement à vous moquer royalement des dossiers que vous avez à rendre, et pour un japonais, c'est très grave. Après le très angoissant Creepy l'année passée dans lequel un voisin psychopathe emballait ses victimes sous vide, Kyoshi Kurosawa poursuit son inclassable carrière, toujours dans l'étrange, l'indéfini et l'indéfinissable. On retrouve au cœur de l'intrigue, comme dans Creepy, un couple dont la relation bat de l'aile, mais on retrouvait la même chose dans Reel également. Ce nouveau film s'avère beaucoup plus doux, profondément humaniste et teinté d'une apparente naïveté qui s'avère en fait une belle réflexion sur ce qui nous rend humains. Émaillé de fulgurances parfois violentes et comiques, Avant que nous disparaissions prouve encore une fois que Kyoshi Kurosawa est l'un des rares cinéastes à réussir des films à la fois drôles, poétiques et dérangeants.
Éloge de toute la critique sur ce film de Kurosawa, Manu.
Quasiment, oui. Pourtant, le film n'a pas été très très bien reçu à Cannes. Moi, je trouve que c'est un film formidable, un film de SF. Un mélange d'humour et puis de critique sociale, avec un côté très existentialiste. C'est-à-dire que les extraterrestres sont un peu filmés comme des revenants. C'est-à-dire que malgré tout, pour moi, Kurosawa, il fait un film de fantômes et ces revenants, ils nous interrogent, les êtres humains, sur ce qu'on fait un peu sur Terre. Donc, il y a un côté très existentiel qui, je trouve, assez passionnant.
C'est dans les salles depuis le 14 mars, tout comme un film que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle La Belle et la Belle.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
Un film avec Sandrine Kiberlin et Melville Poupeau, réalisé par Sophie Filière. Oui, je signe tout de suite. J'aurais dû déjà en parler la semaine dernière, mais il n'est jamais trop tard parce que Sophie Filière fait partie de ces réalisatrices qui savent faire des comédies décalées, fantaisistes ou encore légères, où la mise en scène se met au service du propos et de situations avec des dialogues précis, chirurgicaux, souvent brillants. Sophie Filière est une auteure et elle écrit et réalise ses films et tant qu'à faire, eh bien, les dialogues. Alors sans doute poursuit-elle des obsessions. Le couple, la relation amoureuse, est ce qu'on pourrait appeler le bonheur. La recette est simple. Alors pour son dernier long métrage, La Belle et la Belle, elle use encore de tout son talent pour raconter comment les gens s'aiment ou ne s'aiment plus ou ne savent plus tout à fait. Le pitch est simple, Margot, 20 ans, interprétée par Agathe Bonitzer, fait la connaissance de Margot, 45 ans, interprétée par Sandrine Kiberlin. Alors sans vraiment le savoir, tous les unis, il s'avère qu'elles ne forment qu'une seule et même personne à deux âges différents de la vie. Nous voilà plongés dans une histoire fantastique, à base d'uchronie, où le temps bégaye et tous les glissements temporels sont possibles, puisque Margot rencontre Margot, et les deux, selon leur situation, rencontrent des personnes qu'elles ont soit déjà vues il y a longtemps ou qu'elles verront plus tard. Et c'est le cas de Marc, interprété par Melville Poupeau, beau gosse, force tranquille, qui fricote avec les deux Margot. Tout est possible et sans jalousie, ou presque.
C'est moi, dans 20 ans.
Elle t'en semble trop pas.
Parfois t'es hyper terre à terre. Je te dis que cette fille c'est moi.
Je t'imagine.
Ouais, je m'imagine des choses vraies. J'ai pas couché avec lui.
Que tu dis ?
Non mais je vous signale que je vous entends là.
Bon, toi tu t'es fait tirer ton scooter et Margot, sa carte bleue, elle passe plus.
Oh, j'avais même pas fini de payer en plus.
Je fume. On a commencé quand ?
Moi il y a 15 ans, donc toi dans 5.
Vous vous connaissez d'où en fait ?
De Paris.
T'es une ancienne élève ?
Quoi, t'es prof ? Me dis pas que t'es prof.
Évidemment, les choses sont déséquilibrées. Hein. Le personnage de Sandrine Kiberlin connaît très bien le parcours d'Agathe Bonitzer. Ses amants, ses rencontres, ses fuites, ses renoncements. La mélancolie affleure évidemment chez la Margot de 45 ans quand l'imprécision, le flottement caractérise la Margot de 20 ans. Le jeu de miroir va permettre de dénouer une situation et tout le film nous tire vers cela, entre regrets, erreurs, désirs pas tout à fait enfouis. Eh bien, ces deux femmes qui sont la même personne ont quelque chose à accomplir. Il s'agit d'un conte drôle, teinté de mélancolie, servi par des acteurs brillants, même Agathe Bonitzer, que j'aime pas particulièrement, hein, qui est la fille de la réalisatrice, hein, qui s'en tire bien. D'autant que le verbe qui peut apparaître parfois si bien ciselé chez Filière sert ici le personnage. Ainsi, la Margot de 20 ans est de son époque et elle a le phrasé des gens de son âge, hein, ce à quoi la réalisatrice aurait pu renoncer il y a encore quelques temps de cela. Ce film admirable nous donne l'occasion de jouer un blind test avec Sandrine Kiberlin. Elle est nommée en 95 pour les Patriotes au César du meilleur espoir féminin qu'elle remporte l'année suivante pour En avoir ou pas. Alors on vous propose de jouer donc au blind test avec la filmographie de Sandrine Kiberlin, un physique de grande perche facilement reconnaissable, tout comme sa voix, c'est plus pratique en radio. L'actrice est aussi chanteuse et participe à la tournée des Enfoirés, mais c'est pas de ça dont on va parler. On écoute un premier extrait et c'est très facile.
Vous vous présentez devant l'immeuble de Monsieur Delisle à 1h. Et là, vous pénétrez chez ce pauvre homme.
Pauvre? Vous pensez bien que s'il est chez lui, c'est justement parce qu'il n'était pas pauvre.
Non, mais ça, c'est une façon de parler.
Oui, mais façon de parler, façon de présenter. Du coup, ça commence très mal pour moi, les jurés sont attendris. Hein, alors, c'était pas un type pauvre du tout, c'est un type très riche, qui a forcément dû piquer aux uns et aux autres.
Non, mais le discours militant, ça marchera pas non plus. Contentons-nous des faits, et rien que des faits.
Très bien. J'entre chez ce vieux monsieur, très riche et très malhonnête.
Mais non, vous pénétrez par effraction chez Monsieur Delisle.
Admettons.
Et vous commencez par vous fracturer le coffre quand il vous surprend. Et là, vous devenez fou. Vous prenez une meuleuse et vous lui sautez dessus à 1h45. D'après la déclaration de la victime, dont la dernière vision est l'horloge 18e de son cerveau.
Alors, c'est une séquence visuelle aussi.
9 mois ferme, oui, de Dupontel.
Voilà, qui a valu, eh bien, le César de la meilleure actrice à Sandrine Kiberlin. C'était en 2012. Un nouvel extrait.
C'est la dernière fois qu'on vole, d'accord? Mais la dernière fois, hein, je déteste faire ça. Et quand tu seras grand, tu voleras pas, juré?
Je te jure.
Et quand tu seras grand, tu feras exactement l'inverse de ce qu'ont fait ton père et moi. Tu me jures?
Je te jure, de toute façon, je ferai rien comme vous.
J'ai soif, là. Il est où, le jus de fruits, là?
C'est qui, ce mec?
Non, mais c'est personne, on s'en fout. Bah alors, hé, vous êtes content ou pas?
Quoi?
Bah, c'est cool, c'est les vacances, non?
Cette année, on part en vacances.
Oh, parce que tu peux être cassante. Noël, ça peut être aussi à Paris. Il y a des millions de Chinois qui viennent à Paris visiter la Tour Eiffel, les grands magasins, mais toi, tu t'en rends même plus compte, quoi. Tu t'en fous complètement des Chinois.
Ouais.
Alors, bon, c'est pas forcément facile, hein, surtout si on l'a pas vu.
Bah non, je l'ai pas vu, c'est sûr.
Alors, c'est un film de 2015 avec Édouard Baird. Ça a dû sceller leur rencontre. Encore heureux. Par Benoît Graffin, voilà. Enfin, là, elle joue vraiment une fille fantasque. Alors, troisième extrait, j'espère que ce sera plus facile.
J'ai pas pu faire ce que vous m'aviez demandé.
Pourquoi?
Parce qu'à la frontière, les voitures étaient fouillées. Alors, j'ai pas pu continuer, c'était trop risqué. Et j'ai regardé dans le coffre et... Putain.
Vous avez dit de pas regarder!
Mais quand j'ai vu qu'ils arrêtaient des voitures, il a bien fallu que je sache qu'il y avait dans le coffre!
Il fallait me prévenir! Quand je vous ai au téléphone, vous aviez déjà fait demi-tour, vous m'avez dit que tout allait bien, vous êtes complètement folle!
Vous voulez pas vous inquiéter, j'ai trouvé une solution.
Quelle solution? Moi, je vous avais demandé de conduire une voiture. Vous avez enterré un cadavre. Vous avez enterré un cadavre pour moi. Vous êtes complètement folle.
Mais arrêtez de dire que je suis complètement folle. Vous croyez que vous valez mieux que moi? C'est vous qui êtes venu ici avec un cadavre. Et vous me connaissez pas. Vous m'avez dit que c'était un accident. Moi, je vous ai cru. Je vous ai fait confiance. Et vous aussi, vous m'avez fait confiance. Je vous avais promis de vous sortir du pétrin.
Vous comprenez pas que vous m'y avez enfoncé?
Alors, c'est Laurent Lafitte, hein, qui est excédé. Laurent Lafitte est un chanteur et Sandrine Kiberlin est une grande fan de ce chanteur. Et donc, il lui demande de faire quelque chose pour lui, mais elle rate complètement.
Et donc, je n'ai pas vu. Ça me dit quelque chose, hein, mais non, je n'ai pas vu.
Un film intéressant que je n'avais pas vu non plus, mais en cherchant un dialogue, je me suis aperçu que c'était très bien écrit et que finalement, le personnage de Sandrine Kiberlin est complètement mythomane. Et cette mythomanie va permettre finalement à l'artiste qu'elle vénère de ne pas aller en prison. C'est assez intéressant, je trouve, parce qu'elle va être face à des enquêteurs. Bon, en tout cas, c'est Elle l'adore, film de 2014, réalisé par Jeanne Herry. Allez, un extrait, j'espère que ce sera plus facile.
Et qu'est-ce que ça veut dire d'aller se faire endormir?
Ça se trouve, c'est pas moi, c'est mon ombre.
Ah ouais? Tout ça, c'est un rêve?
Peut-être que mes rêves sont plus longs que la nuit.
sais pas moi ce qu'il fait quand il est en dehors, il fait des trucs. Qu'est-ce qu'il fait quand il est en dehors?
Des super trucs.
Moi j'ai pas le droit.
Toi non.
Il me regarde pas comme ça.
Tu me fais rire, t'as que le cul dans la tête.
Parce qu'avec lui, vous voir les peintures. Vous allez voir des expositions. C'est un artiste, c'est ça? Il doit être super chic. J'aimerais bien voir sa tronche.
Eh bah tiens, regarde.
C'est lui?
Alors, c'est Vincent Lindon qu'on entend. Alors, c'est une vieille copie, comme on dit, un film de 97. Et là, on sent bien que c'est pas du tout la même interprétation.
Il jouait film absolument... de 97.
Ouais, il jouait pas une comédie,
c'est...
là.
C'est pas Fred?
Non, c'est un film de Benoît Jacquot.
Ah, Benoît Jacquot, ah oui.
C'est le Septième Ciel.
Septième Ciel, oui.
Voilà. Où Vincent Lindon suppose une infidélité de sa femme, mais c'est pas vraiment le cas. Allez, dernier extrait.
Bon, je vais vous faire écouter un autre message et on le commente ensemble. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça?
C'est une salope.
Mais c'est violent comme terminologie, salope. Oui, puis j'ai entendu le mot pute également, il me semble.
Le body.
Non, parce que c'est très important, là, on est au cœur du problème. Hein. Parce que si on suit votre logique, il y a clairement deux camps. D'un côté, on a les donjouans, les séducteurs, les coureurs de jupons sympathiques. Et de l'autre, les putes et les salopes. Vous comprenez ce que je dis là?
Alors, bon, ça c'est
bah encore un
c'est
film
marginal,
que j'ai pas vu, je pense.
C'est marginal dans sa filmographie parce que c'est un film en 7 sketchs en fait, enfin en 7 portions, en 7 segments plutôt. Donc c'est Les Infidèles de Jean Dujardin, Gilles Lelouch,
si, j'ai vu.
De 2012.
J'ai vu.
Ah bon? Et tu te souviens pas qu'elle
l'anime? Absolument de rien dans le film.
Elle organise un stage pour les accros du sexe.
Mmh. Je m'en souviens
même
pas.
C'est assez résistible hein, cette scène. Bon. Voilà. Allez, un petit... alors, donc, on achève la version officielle du blind test, mais j'avais un petit bonus, parce que c'est aussi bien une séquence que j'adore.
J'ai beau faire deux séances de psychothérapie, vous savez, je vais deux fois par semaine chez mon psychothérapeute, eh bien, ça ne change pas.
Enfin, écoutez-moi, si je peux me permettre, hein, ce qui change, c'est que lui, il roule en Porsche.
Oui.
C'est peut-être pas facile à comprendre, mais en tout cas, peut-être que ça vous donnera envie de voir. Très bien, merci, film d'Emmanuel Coe, où là, c'est Gilbert Melki qui donne la réplique. Gilbert Melki qui... alors, elle joue un chauffeur de taxi. Et Gilbert Melki, eh bien, son mari va se retrouver dans un hôpital psychiatrique, tout simplement parce qu'il a assisté à une arrestation. Et voulant comprendre pourquoi les policiers arrêtaient cette personne et refusant de quitter les lieux, finalement, et on l'a emmené au poste. Et du poste, il est allé dans un hôpital psychiatrique. Voilà. Ça posait vraiment des questions très intéressantes. Très bien, merci d'Emmanuel Coe. Cinérama continue. On va quitter la comédie pour un film dramatique après la guerre de Anna Rita Zambrano.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations?
Cinérama.
On va regarder ça.
Elle est vieille, cette photo. On dirait même pas que c'est toi.
Ils ont arrêté Adriano. Ils l'ont extradé en Italie.
Marco est un ancien militant d'extrême gauche, réfugié en France depuis 20 ans et qui a entièrement refait sa vie. Mais en 2002 à Bologne, le refus de la loi travail réveille les tensions entre l'Italie et la France et Marco est soupçonné d'être lié à l'attentat qui coûte alors la vie à un juge. On demande à la France de l'extrader alors qu'il était jusque-là protégé par la doctrine Mitterrand. Alors petit point histoire, la doctrine Mitterrand, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'était un engagement que Mitterrand avait pris en 85 en annonçant qu'il renonçait à extrader les terroristes italiens sauf s'ils avaient commis des crimes de sang. Marco, confronté à son passé qui ressurgit, décide de s'enfuir avec sa fille de 16 ans, Viola, et à travers ce choix, c'est toute sa vie qui va faire basculer, ainsi que celle de sa famille.
Tu parles italien?
Non.
Ton père te parle jamais italien?
Non.
C'est dommage. T'as pas envie de connaître la famille italienne de ton père?
Non.
Tu sais que sa sœur à Bologne est mariée avec un juge?
Et alors?
Il a beaucoup de pouvoir, il est très important. Et peut-être il pourrait l'aider à réduire sa peine s'il lui demandait.
Il ne demandera rien à personne en Italie.
Et toi, t'as envie d'aller vivre au Nicaragua ?
La réalisatrice Anarita Zambrano explore les blessures liées aux années de plomb avec cette histoire de famille qui se heurte au passé. C'est donc la petite histoire qui rejoint la grande, deux générations qui se retrouvent liées par un événement dramatique et il y aurait eu beaucoup de choses à aborder, la rédemption, l'implication politique, la radicalité de certaines actions et leur bien fondé. Et malheureusement, après, la guerre s'avère bien insipide, tant sur le fond que sur la forme. Finalement, on demeure fixé sur la relation filiale, même s'il est aussi question des répercussions que cela a sur la famille restée en Italie. Et ces histoires de famille ne sont pas abordées de façon très palpitante. On aimerait que le film parle davantage du terrorisme italien, sachant que le public français ne connaît que très mal cette partie de l'histoire. On n'en a pas conscience, mais les attentats ont fait partie du quotidien en Italie, puisque entre 1969 et 88, le terrorisme rouge et noir a été responsable de plus de 400 morts et de 15 000 attentats. Et c'est quelque chose dont on ne saisit pas l'importance dans le film. C'est un film anti-spectaculaire, centré sur la culpabilité et sur ce qu'il se passe à l'intérieur de la tête des personnages. Tout repose sur ce duo père-fille, qui en plus ne dialogue pas beaucoup, voire qui sont souvent totalement mutiques. Beaucoup de silence, peu d'action et pas tellement de réflexion, voilà ce qu'il ressort de « Après la guerre ». La lumière naturelle qui est utilisée en fait un film un peu triste, sans grande envergure artistique, avec une mise en scène tellement simple qu'elle en devient anodine, voire presque bâclée. C'est donc un film malheureusement assez oubliable, dont vous pouvez vous dispenser.
Si t'as besoin de quoi que ce soit, de parler ou d'autre chose, tu m'appelles.
Commencer.
Effectivement, la mise en scène est austère hein, pour ce film de cavale, où finalement ça cavale pas tellement. Et effectivement, tout se recentre sur la relation père-fille avec la fille qui, à l'aube des 16 ans, eh bien, a envie d'autre chose que de suivre son père, je sais plus si c'est en Uruguay ou je ne sais quoi. On va maintenant parler d'un film assez confidentiel, un film coréen distribué dans très peu de salles en France.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Alors un film confidentiel mais qui a des allures de blockbuster quand même. Enfin bon, réalisateur de polar violent et très efficace. Hein. Moi j'avais beaucoup aimé City of Violence et The Agent. Ryu Sung-wan passe à la vitesse supérieure, hein, du moins en ce qui concerne les intentions, avec Battleship Island qui prend des allures de fresque épique en partant d'un sujet qui a fait vibrer la fibre patriotique des Coréens. Alors à la fin de la Seconde Guerre mondiale, hein, des Coréens sont emprisonnés sur l'île d'Ashima par les forces coloniales japonaises. Cette île est un camp de travail où les prisonniers sont envoyé à la mine, un résistant travaillant pour les services secrets coréens infiltré sur l'île élabore un plan d'évasion géant afin de sauver tous les Coréens. Alors bref, en relatant subjectivement un acte héroïque, hein, Battleship Island a des allures démesurées de grande évasion version coréenne, sauf que pour donner une universalité et une ampleur au projet, les auteurs ont multiplié les personnages archétypaux comme dans un film catastrophe afin de faciliter une identification. Alors on a un père musicien et sa petite fille, un traître de service à la solde des Japonais, une prostituée tué au grand cœur, un chef de gang, un intellectuel qui va se révéler courageux et j'en passe. Bref, un panel varié censé représenter la société coréenne au sein d'un divertissement pyrotechnique haut en couleur mais à la portée limitée. Alors on se demande même ce qui a poussé les distributeurs à sortir un tel film en France. D'habitude, les gros succès calibrés qui viennent de Corée ne franchissent pas l'Occident en fait, hein, sauf directement en vidéo, tant ils ressemblent à des démarquages hollywoodiens, ce qui est parfaitement le cas ici. Alors ce film d'évasion multiplie tous les clichés du genre et le scénario n'offre aucune variante excitante. Techniquement, en revanche, c'est irréprochable. La lumière est impeccable, les mouvements de caméra sont impressionnants et le montage est ultra dynamique. Sur le fond, c'est une autre histoire. Battleship Island s'engouffre dans un nationalisme exacerbé assez gênant, d'autant que tous les Japonais sont présentés, alors sans exception, comme des monstres sanguinaires. Alors en 2018, cette représentation outrée de l'ennemi est plus que gênante, elle en devient même un peu nauséabonde. Et je ne crois pas qu'on oserait faire la même chose actuellement avec les Allemands si on faisait un film sur le nazisme. On présenterait un peu plus de nuances au moins pour présenter la globalité des Allemands. Enfin, ça me paraîtrait un peu étrange quand même.
On répète le titre de ce film qui sera peut-être pas trouvé dans les salles.
Battleship Island. On croit à un titre de film de science-fiction, mais c'est pas le cas du tout.
Alors méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui ?
Il va pas contrôler qui est qui.
Quoi, qui est qui ?
À quoi, qui est qui, quoi ?
Eh bien, qu'y a-t-il ?
Auriez-vous oublié que nous partons ?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
La semaine prochaine, on se retrouve, on parlera du Collier Rouge et peut-être de Madame Hyde. Et puis, eh bien, des films qu'on n'a pas pu voir la semaine du 21 mars.